Audiolib présente Le journal de ma disparition de Camilla Grebe, traduit du suédois par Anna Postel. Lue par Audrey Sourdive. À Osa et Mats, vous avez prouvé que l'on peut sortir des ténèbres, même les plus profondes. Qui sème le vent récolte la tempête. Ormberg, 2009. Maline. Ce soir-là, j'ai traversé les bois agrippé au bras de Kenny. Ce n'était pas par peur, bien sûr. Je ne croyais pas aux fantômes, à la différence de beaucoup d'autres. Comme la mère de Kenny, par exemple, qui passait son temps devant son téléviseur à regarder des médiums de pacotille fouillés de vieilles demeures soi-disant hantées en quête d'esprits inexistants. Pourtant, à Ormberg, qui pouvait se targuer de n'avoir jamais entendu des vagissements de nourrissons près du monticule de pierre? Cette sorte de plainte mélancolique et interminable, le cri de l'enfant fantôme. Alors même si je n'accordais aucun crédit aux revenants et aux inepties de cette nature, je préférais jouer de prudence. Je ne venais jamais seule une fois la nuit tombée. J'ai levé les yeux vers la cime fuselée des sapins. Ils étaient si hauts qu'on entrevoyait à peine le ciel et la lune blafarde, ronde comme un ballon. Kenny m'a tiré par la main. Les bouteilles de bière s'entrechoquaient dans le sac plastique et l'odeur de sa cigarette se mêlait à celle de l'humus moite et des feuilles en décomposition. Quelques mètres derrière nous, Anders avançait d'un pas lourd entre les rameaux de myrtille, sifflant un air que j'avais entendu à la radio. « Bah alors, Maline ?»«
Quoi ?
Tu marches encore moins vite que ma daronne. T'es déjà bourrée ou quoi ?» La comparaison était injuste. La mère de Kenny pesait au moins 200 kilos et je ne l'avais jamais vue parcourir une distance plus longue que celle qui séparait le canapé des toilettes, ce qu'elle faisait au prix d'un immense effort. « Ferme-la, Kenny !» J'ai employé un ton faussement ennuyé, espérant qu'il comprendrait que je plaisantais, que cette invective renfermait un respect mêlé d'amour. Nous n'étions ensemble que depuis 2 semaines. Outre les traditionnels baisers échangés sur son lit aux effluves nauséabonds, nous avions passé notre temps à définir nos rôles au sein du couple. Lui, dominant, drôle, parfois à mes dépens, et quelquefois envahi par une neurasthénie précoce et égocentrique. Moi, admirative, magnanime, docile, souvent à mes propres dépens, lui offrant un soutien sans faille dans ses moments de dépression. L'amour que je portais à Kenny était si impétueux, si instinctif, si charnel aussi, qu'il m'épuisait. Je refusais pourtant de me passer de lui un seul instant, comme si je craignais qu'il ne fût qu'un rêve, une chimère que mon cerveau languissant d'adolescente avait créée de toutes pièces. Les conifères autour de nous semblaient vieux comme la terre. De doux oreillers de mousse s'étendaient à proximité de la souche et une barbe de lichen poussait sur les épaisses branches au ras du sol. Tout à coup, un craquement a retenti dans le lointain. « Qu'est-ce que c'est ?» Ma voix m'a paru un peu trop stridente. « C'est l'enfant fantôme !» a annoncé Anders sur un ton théâtral quelque part derrière moi. Il est venu te chercher! Merde, Anders, arrête de lui foutre les jetons! L'a rabroué Kenny, mu par un instinct de protection aussi soudain qu'inattendu. J'ai gloussé et manqué de perdre l'équilibre en butant sur une racine. Mais la main chaude de Kenny était là, dans le noir. Il a changé son pied d'appui pour me retenir, faisant teinter les bouteilles dans le sac. Son geste attentionné a diffusé une vague de chaleur dans mon corps. La forêt de sapins s'éclaircissait à mesure que nous avancions, comme si les arbres reculaient sur notre passage, et nous avons débouché sur la petite clairière où se dressait le monticule de pierre. Au clair de lune,